matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Édouard Philippe admet des erreurs dans la gestion de la crise face aux manifestations et aux demandes des Gilets jaunes. Le Premier ministre s'exprime dans Les Échos ce matin. Il s'est notamment dit ouvert à la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne. Nous détaillerons cette idée et ce qui existe déjà dans un instant.
Et puis nous nous pencherons sur les précisions faites par Édouard Philippe sur les mesures fiscales en faveur des travailleurs les plus modestes. La hausse de la prime d'activité se fera à compter du 5 février.
Les Gilets jaunes encore, qui pour certains veulent se faire entendre et être reconnus lors des élections européennes de mai prochain. Certains s'organisent, vous l'entendrez.
Et puis dans ce journal encore, nous irons en République démocratique du Congo. À 5 jours de la présidentielle, la violence est quasi constante, surtout envers l'opposition. Le président sortant, Joseph Kabila, ne se représente pas cette fois-ci.
Et puis, puisque nous évoquions le référendum d'initiative citoyenne, une pétition a poussé la Bretagne et la Loire-Atlantique à se pencher sur un possible rapprochement. Une partie de la population le demande, mais pas les élus. Cela existe déjà en Suisse, faire voter le peuple sur un projet de loi ou pour révoquer un élu. Le référendum d'initiative citoyenne est une demande de plus en plus pressante des manifestants en gilets jaunes. Ils veulent faciliter la consultation du peuple sans y associer le Parlement en amont. Réponse d'Édouard Philippe dans les colonnes des Échos ce matin. Le référendum peut être un bon instrument dans une démocratie, mais pas sur n'importe quel sujet et dans n'importe quelles conditions. Bonjour Frédéric Saïs.
Bonjour Clara.
Frédéric, une forme de référendum populaire existe déjà en France, mais les conditions pour le mettre en application sont drastiques.
Oui, depuis la réforme de la Constitution sous Nicolas Sarkozy en 2008, cela s'appelle précisément le référendum d'initiative partagée. Et effectivement, les prérequis sont extrêmement difficiles à atteindre. Pour déclencher ce type de référendum, il faut l'accord d'un certain nombre de parlementaires, 186, c'est-à-dire 1 sur 5, plus la signature d'un dixième du corps électoral, cela signifie 4,5 millions de Français. C'est pour cela qu'on parle de référendum d'initiative partagée entre le peuple et le Parlement. Alors savez-vous combien de fois cette possibilité a été mise en œuvre ? Eh bien, aucune. Les conditions sont tellement drastiques que personne n'y est arrivé. Voilà pourquoi certains des Gilets jaunes réclament un nouveau dispositif plus ouvert. Ils veulent s'inspirer du modèle suisse. Là-bas, cela s'appelle l'initiative populaire. Il faut rassembler les signatures non pas de 10% du corps électoral, mais de 1,8%. Rapporté à la France, cela reviendrait à environ 800 000 paraphes citoyens, c'est déjà plus accessible. Reste ensuite la question de savoir qui contrôle les signatures, l'État ou une autorité indépendante. Peut-on signer en ligne ou bien doit-on se déplacer en mairie, par exemple? Ces modalités changent évidemment tout, elles feront partie du débat organisé par l'exécutif. Édouard Philippe, accusé jusque dans son propre camp d'avoir été trop fermé, trop obtus dans cette crise, tente de montrer ainsi son écoute, son ouverture. Il tente aussi de déjouer le désintérêt pour ce débat qui peut sembler factice alors que les principales mesures sociales ont déjà été annoncées par le président de la République.
Merci Frédéric Saïs. Après ce journal, Frédéric, vous vous interrogerez dans votre billet politique. Emmanuel Macron est-il devenu un président normal ? Réponse donc dans une douzaine de minutes. Avant cela, je me tourne vers Catherine Pétillon. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Du service économie de France Culture. Dans cette interview ce matin, dans le quotidien Les Échos, le Premier ministre précise aussi et surtout les mesures fiscales annoncées par le président Macron la semaine dernière. Mesures qui vont creuser le déficit français. Il devrait s'établir à 3,2% du PIB en 2019, plus donc que les 3% demandés par Bruxelles. Parmi les mesures, les annonces à financer, l'augmentation de la prime d'activité, elle se fera, Catherine, à partir du 5 février prochain.
Oui, le gouvernement a tranché entre les différents scénarios à l'étude et l'augmentation du SMIC de 100 euros promise passera finalement par la hausse massive, dit le Premier ministre, de la prime d'activité, prime versée aux salariés les plus modestes. Cette augmentation ne concernera donc pas tous les salariés au SMIC, car la prime d'activité tient en compte de l'ensemble des revenus du ménage. Actuellement, elle est touchée par environ 40% des salariés au SMIC. En revanche, l'exécutif prévoit d'élargir les conditions d'éligibilité à cette prime, ce qui ferait passer le nombre de foyers concernés de 3,8 à 5 millions, précise le Premier ministre. Autrement dit, cette mesure ne concernera pas tous les salariés au SMIC, mais pas non plus uniquement les salariés au SMIC. C'est ce que souligne le Premier ministre dans cet entretien. Exemple à l'appui, les salariés célibataires sans enfants jusqu'à jusqu'à 1 560 euros nets de revenus toucheront les 100 euros supplémentaires, de même qu'un parent seul avec enfant gagnant jusqu'à 2 000 euros. Un couple dont les revenus cumulés ne dépassent pas les 2 900 euros et avec deux enfants touchera, lui, 200 euros. Cette option laissera toutefois de côté les salariés au SMIC dont le conjoint est beaucoup mieux rémunéré. Édouard Philippe y voit, je cite, une mesure de justice sociale. Il explique qu'1,2 million de salariés payés autour du SMIC se trouvent, grâce à d'autres revenus, dans les 30% de foyers français les plus aisés. Parmi les réactions à ces annonces, celle de Force Ouvrière, son secrétaire général déplore, lui, l'absence de hausse du taux horaire du SMIC. Ces 100 euros supplémentaires sont en tout cas versés dès le 5 février, vous le disiez, pour compléter le salaire de janvier.
Merci Catherine Pétillon. Alors y a-t-il un changement de cap dans la politique économique de la France? Nous reposerons la question à nos invités dans les matins de France Culture après ce journal. Voilà donc pour les réponses aux doléances des Gilets jaunes qui ont, soulignent certains observateurs, obtenu plus que n'avaient pu le faire les syndicats ou des partis politiques avant eux. Ils sont maintenant quelques-uns à vouloir se structurer. Il faut qu'on s'organise pour être crédible, disait-il hier à Toulouse en Assemblée Générale. À Strasbourg également, certains comptent lancer un parti politique. Une réunion a eu lieu hier, dimanche, dans l'objectif de présenter une liste aux élections européennes de mai prochain. Parmi les participants, Patrice Armuzio, c'est un ancien militant d'En Marche.
J'ai 60 ans, je suis créateur d'entreprise. J'ai rejoint le mouvement Gilets jaunes. Anciennement, j'étais En Marche, profondément déçu. ISF et autres éléments de ce genre. Vous avez actuellement dans les formations groupe Gilets jaunes une certaine, je dirais, image apolitique, mais ils n'arrivent pas à se faire entendre. Vous le voyez de par les deux structures qui existent actuellement au niveau national, qui finalement, tout compte fait, ne représentent plus rien. On a décidé de créer une structure Gilets jaunes humaniste avec un parti politique qui va permettre finalement de fédérer au niveau du Bas-Rhin, puis ensuite au Rhin, puis partir avec des contacts que nous avons dans d'autres départements pour créer finalement un véritable parti.
C'était un manifestant gilet jaune à Strasbourg au micro France Bleu Alsace de Solène de Larquier. Pour créer un parti politique, il faut des figures. Voilà ce que note ce matin le politologue et constitutionnaliste Olivier Roucan.
S'ils veulent se prolonger sous forme de mouvement politique ou à minima de liste électorale, notamment européenne, il faudra bien qu'ils se rapprochent des canons classiques de la représentation. Donc effectivement, il va falloir des têtes de liste, effectivement, il va falloir des mandants. Mais à tout le moins, ils peuvent essayer de désigner, même si c'est de façon tournante, quelques collectifs capables de les représenter au niveau qui leur semblera pertinent. Je pense que c'est la seule façon qu'ils auront d'avoir une existence un peu pérenne, notamment pour porter les propositions dans lesquelles ils semblent s'engager, puisque là on est sur des questions démocratiques. Semble-t-il, ils sont attachés à continuer à revendiquer sur la question fiscale. Il y aurait un grand débat fiscal. Donc tout ceci va demander une organisation plus lisible.
Les gilets jaunes qui s'exportent jusqu'en Irak, à Bassora, les habitants de la deuxième ville du pays manifestent contre la corruption, le chômage et le manque de services publics depuis 5 mois maintenant. Et ils enfilent donc depuis peu des gilets jaunes. À cause des coupures d'eau et d'électricité régulières, la région fait face à une crise économique sans précédent. La moitié de la population y vit sous le seuil de pauvreté. Des manifestations également en Hongrie, avec là encore quelques chasubles jaunes dans la foule. Au moins 10 000 personnes ont protesté hier à Budapest contre la politique du Premier ministre national conservateur Viktor Orban. Il souhaite assouplir le droit du travail hongrois et c'est un fait sans précédent depuis son retour au pouvoir en 2010. Tous les partis d'opposition ont défilé sous la même banderole hier pour dénoncer cette loi esclavagiste, disent-ils. La réforme permet de demander jusqu'à 400 heures supplémentaires par an à un salarié, soit l'équivalent de 2 mois de travail. Il est 8h passé de 9 minutes sur France Culture. Y aura-t-il une présidentielle en République démocratique du Congo ce dimanche pour remplacer Joseph Kabila? La campagne électorale en tout cas se fait dans la violence en ce moment. Au moins 6 personnes ont été tuées lors de réunions diverses. Et l'ONU s'inquiète de nombreux obstacles rencontrés par les candidats de l'opposition. Anthony Fouchard a rencontré l'un d'eux.
À peine sorti de son petit avion avec lequel il sillonne le pays, Martin Fayoulou embrasse le sol. C'est devenu son rituel. Il faut dire que le candidat de l'opposition passe pour l'instant une bonne partie de sa campagne bloquée sur les tarmacs des aéroports congolais. Ses autorisations de vol sont annulées à la dernière minute, son avion dérouté, des entraves qu'il impute au pouvoir en place.
Ça ne me surprend pas de la part du régime, étant donné que ce régime ne veut pas quitter le pouvoir. Ça mais je ne pouvais pas penser qu'il y aura cette violence.
Mais cela ne s'arrête pas là. À Lubumbashi, dans le sud du pays, son cortège a été pris pour cible par la police, gaz lacrymogène, canons à eau et des tirs. Selon le gouvernement, il s'agissait de disperser des manifestants violents. Bilan, au moins 5 personnes ont été tuées par balle.
Pourquoi cette répression? Pourquoi le pouvoir veut à tout prix entraver la campagne de l'opposition? Qu'est-ce qu'il prépare? Parce qu'on reçoit des coups de fil en disant « attention à l'assassinat, attention à l'empoisonnement ». Qu'est-ce que le régime Kabila veut exactement?
Chaque déplacement de Martin Fayoulou rassemble des dizaines de milliers de personnes. Le candidat de la majorité, lui, Emmanuel Ramazani Shadari, peine à unir les foules. La campagne doit s'achever dans 4 jours.
Pour une élection prévue ce dimanche, c'était Anthony Fouchard depuis Goma en RDC pour France Culture. Alors le président actuel Joseph Kabila, au pouvoir depuis 17 ans, doit à cette occasion, lors de cette présidentielle, céder sa place. C'est peut-être pour cela que tout est fait pour perturber l'élection, analyse Christophe Rigaud, journaliste pour le site Africa Rabia. Il suit de près l'actualité en République démocratique du Congo.
C'est la tension qui s'installe parce que Joseph Kabila est sorti de son silence la semaine dernière dans une interview à la presse internationale où en fait il a clairement dit que même s'il renonce à se présenter cette fois-ci, eh bien il ne va pas quitter la politique et il compte se représenter en 2023. Donc on a l'impression que soit les élections vont être reportées et Joseph Kabila restera, soit les élections ne sont pas reportées et Joseph Kabila reviendra. Les opposants ont vraiment l'impression que ce scrutin est joué d'avance, notamment à cause de l'utilisation de ces fameuses machines à voter qu'ils appellent machines à tricher. Ce sont des machines qui n'ont jamais été testées sur le terrain grandeur nature, qui n'ont jamais été auditées de manière indépendante et ils craignent en fait des fraudes massives. Donc c'est vrai qu'on sent dans les meetings de l'opposition que le pouvoir est un petit peu en bout de route, que le bilan de Joseph Kabila au bout de 17 ans de pouvoir est très mauvais et qu'il y a un besoin d'alternance et de changement. Maintenant, il y a toujours ce soupçon de fraude, comme en 2011, au moment de la réélection de Joseph Kabila, qui plane sur ce scrutin.
Christophe Rigaud, spécialiste de la RDC avec Nabila Hamel. La coalition gouvernementale en Italie est tombée d'accord hier soir sur les chiffres et sur le contenu du projet de budget révisé pour 2019. Un projet qui sera de nouveau proposé à la Commission européenne. Et cet accord intègre davantage de réductions budgétaires, ce qui devrait plaire à l'Union européenne. Voilà en tout cas ce qu'a déclaré le ministre d'extrême droite Matteo Salvini hier soir. Entre 200 et 300 migrants ont tenté à Paris d'entrer dans la Comédie française ce dimanche soir. Demandeurs d'asile ou sans papier, ils souhaitaient interpeller l'administrateur du théâtre afin d'obtenir leur régularisation. Et ce, avec le soutien de 2 associations. Ils ont été repoussés avec des gaz lacrymogènes, puis dans le calme, par les forces de l'ordre. Cette question à présent, la Loire-Atlantique peut-elle, doit-elle être rattachée à la Bretagne? C'est une demande régionaliste ancienne, discutée ce matin au Conseil départemental. Les élus voteront à ce propos dans la journée. Une procédure rendue possible par le droit d'option prévu dans la loi NOTRe. Et c'est, Steven Goyer, une demande citoyenne qui a poussé à ce vote.
C'est même une pétition qui a recueilli plus de 100 000 signatures de citoyens de Loire-Atlantique qui a déclenché l'ouverture de la procédure. Pétition lancée par Bretagne Réunie, une association qui milite depuis les années 70 pour créer une Bretagne à 5 départements et qui donc, avec plus de 10% du corps électoral signataire, provoque l'inscription à l'ordre du jour du conseil départemental du fameux rattachement. Alors, la fusion ne sera pas formellement actée ce soir, même si les 3/5 des élus, majorité nécessaire pour valider le droit d'option, vont en ce sens. Il faut aussi que toutes les parties prenantes donnent leur avis, et ça concerne aussi bien la région Pays de la Loire que la région Bretagne. Si côté breton, le conseil régional s'est dit prêt à organiser un référendum, si la Loire-Atlantique le réclamait, ça pourrait bien bloquer côté Pays de la Loire. Il faut savoir que le département reste aujourd'hui le poumon économique de la région. Difficile donc de croire que les élus accepteront de se séparer du territoire et de son dynamisme. La présidente de la région, Christelle Morancet, ne dit d'ailleurs pas le contraire. Contactée par téléphone, elle estime que la question a été tranchée au moment du redécoupage des régions en 2014 et qu'il n'y a pas nécessité d'y revenir. Le président du conseil départemental de Loire-Atlantique, Philippe Grosvalet, a lui en quelque sorte envoyé le sujet directement entre les mains de l'Élysée. Dans un courrier adressé à Emmanuel Macron vendredi, il réclame au président de la République l'organisation d'un référendum à l'échelle régionale. Pas sûr, cela dit, que les habitants des Pays de la Loire consentent là aussi à se séparer de Nantes ou Saint-Nazaire.
Et ce lundi, le temps sera sensiblement le même en Loire-Atlantique et en Bretagne, avec de belles éclaircies. Généralement d'ailleurs, la météo s'annonce plus calme aujourd'hui. Seules quelques pluies vont perturber le ciel sur le Grand Est, la Franche-Comté et sur la Corse. Pour les températures, comptez 2 degrés ce matin à Strasbourg, 5 à Limoges, 6 degrés à Rennes et à Nantes, 6 également à Lille, Paris, Lyon, comptez 9 degrés à Bordeaux et Nice, 11 à Perpignan.